L'immense plaisir de vous présenter ce soir Michel Raymond, que j'ai connu comme jeune chercheur à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier, brillant généticien évolutionniste. Il a participé à décortiquer une histoire évolutive fantastique qui est celle de la résistance des moustiques aux insecticides. Et c'est grâce à lui et au groupe auquel il a participé très activement qu'il a été montré comment les enzymes sont amplifiées. Un gène qui produit des estérases pour détoxiquer le DDT a été amplifié N fois, de très nombreuses fois. Et ses travaux lui ont valu évidemment une médaille d'argent du CNRS plusieurs années plus tard. Et puis un beau jour, le même Michel Raymond a dit « les moustiques c'est intéressant, mais les hommes c'est encore plus intéressant ». Et il s'est réorienté vers l'interprétation darwinienne des phénomènes propres à l'espèce humaine. Et c'est, je pense, qu'il va vous faire découvrir. Et je pense que ce soir, vous serez tous, très surpris des interprétations et des approches originales qu'il développe et qui sont maintenant, depuis quelques années, il a créé sa petite équipe qui marche bien. Et il jouit depuis quelques années d'une très estimable réputation internationale dans ce domaine. Merci Michel d'être venu à Poitiers ce soir.
Merci, ça va être dur après une telle introduction. Alors je vais vous parler donc un peu de l'évolution humaine. Alors tout d'abord, je vais faire une petite introduction qui va être rapide. Donc juste pour vous rappeler que parmi tous les primates, dont vous avez ici une représentation phylogénétique un peu circulaire, avec ici les singes de l'Ancien Monde, du Nouveau Monde, il y a un peu caché ici le groupe des hominidés. Si on fait un petit agrandissement, de là on voit qu'on a différentes espèces qui sont très différentes morphologiquement, mais aussi pour l'organisation sociale. Par exemple, lui... L'orang-outan, c'est une espèce plutôt solitaire. Les gorilles, c'est des espèces qui vivent avec des harems de femelles. Le bonobo, toutes les femelles sont dominantes sur les mâles. C'est le contraire pour le chimpanzé. Et nous, on est là. On est les cousins de ces espèces-là, avec des structures sociales très diverses suivant les différentes sociétés. Alors, évidemment, ces différences s'expliquent par des évolutions le long de ces branches. Et donc, dans cette branche-là, il y a toute une série d'évolutions. Alors, je ne vous parlerai pas de l'aspect paléontologique de cette évolution. Il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour en parler. Vous avez ici, vous avez dû en voir au cours de cette année Darwin, différents arbres reconstruits d'après les données paléontologiques, avec ici, en carré, c'est les différentes découvertes des dernières années. Donc, je ne parlerai pas de cette évolution qui est extrêmement riche et qui continue à évoluer sur les découvertes paléontologiques. Je vous ne parlerai pas, en cette année Darwin, de Darwin lui-même, de son voyage qu'il a fait et de tous ses écrits qui sont commentés diversement. Par contre, si on doit retenir une seule chose de Darwin, c'est le mécanisme même qui fait l'évolution, et c'est la sélection naturelle. Et je vais maintenant vous détailler un petit peu ce concept de sélection naturelle dans sa simplicité et ses implications qui sont en général assez mal expliquées. Pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut qu'il y ait trois conditions. Première condition, il faut qu'il y ait de la variation. Alors, quelques exemples de variation. C'est de la variation à l'intérieur d'une même espèce. Donc, on a différents individus d'une même espèce et on voit que là, la couleur de ces escargots des jardins varie suivant le nombre de bandes. Autre exemple, dans une même espèce de coccinelle, vous voyez encore des variations colorées. Un autre exemple, chez ce même criquet, il y a une forme qui migre et une forme qui ne migre pas, la forme solitaire et la forme grégaire. Voilà, on voit qu'il y a des différences non seulement de comportement de migration, mais aussi morphologiques. Un exemple sur lequel je reviendrai, c'est un exemple de coloration d'un papillon, la phalène du bouleau. Il y a des formes claires et des formes sombres. Évidemment, ça ne vous a pas échappé que ce genre de différence se retrouve aussi dans l'espèce humaine. Il y a des différences de coloration de la peau. Ce sont aussi des variations. Mais chez l'homme, chez d'autres espèces, mais particulièrement chez l'homme, on trouve d'autres types de variations. On trouve par exemple des variations culturelles. Certains individus habitent dans des habitations, ici des appartements et là des châteaux. Et donc ce sont des traits associés à des individus. Et c'est aussi une variation culturelle, là le type d'habitation, mais plein d'autres variations culturelles attachées à des variations individuelles. Donc tout cela, ce sont des variations. Mais pour qu'il y ait sélection naturelle, il faut d'autres conditions. La deuxième condition, il faut que ces variations puissent être transmises. Alors par exemple, quand on regarde la variation entre la couleur claire et la couleur sombre de la phalène du bouleau, on voit que si on croise que des individus sombres, on aura des individus sombres. Si on croise que des individus clairs, on n'aura que des individus clairs. C'est pareil pour l'espèce humaine. Et quand on croise un sombre et un clair, on a un individu intermédiaire. En fait, on sait que cette variation est d'origine génétique et ces variations génétiques sont transmises à la génération suivante. Donc, dans ces cas de polymorphisme, de variation, on a effectivement transmission, c'est la deuxième condition. Alors, qu'en est-il des variations culturelles ? Eh bien, en général, quand on a beaucoup d'argent et qu'on habite dans un château, à la génération suivante, eh bien, il se trouve que cette variation est aussi transmise en général. Les enfants de riches sont en général plus riches que la moyenne de la population. Les enfants de pauvres sont en général plus pauvres que la moyenne de la population. Donc cette variation culturelle est aussi transmise, mais elle est transmise non pas génétiquement, mais culturellement. Darwin ne connaissait pas quelle était l'hérédité, ne connaissait pas les gènes, ne connaissait pas l'ADN à l'époque. La sélection naturelle n'a pas besoin de savoir quel mode fait l'hérédité. Il suffit juste que ça soit transmis, que ce soit génétique ou culturel. Un point très important qui est en général mal expliqué. Donc ça, c'est la deuxième condition pour que la sélection naturelle opère. C'est faut qu'il y ait une transmission des variations. La troisième condition, c'est qu'il faut que ces différences soient associées à des valeurs reproductives différentes. Et là, je vais vous développer l'exemple de cette phalène du bouleau, qui est extrêmement connue. Au milieu du 19e siècle, en Angleterre, si vous cherchez ce papillon, vous allez trouver essentiellement que des blancs et quelques rares noirs. La mutation, les erreurs de copiage introduisent régulièrement cette forme noire. Par contre, elle disparaît au fur et à mesure qu'elle apparaît. Pourquoi ? Ce papillon, quand il est forme claire, quand il se pose sur les troncs de bouleau, vous voyez, il est cryptique. Il se voit très peu, alors que la forme noire est très visible et plein d'oiseaux, dont les mésanges en particulier, vont voir préférentiellement cette forme-là. Et donc les noirs vont être beaucoup plus éliminés que les blancs, ce qui fait que quand vous cherchez les papillons, vous trouvez pratiquement que des blancs. 50 ans plus tard, la révolution industrielle est passée, les troncs ont été noircis par les pollutions, et c'est exactement le contraire, les noirs deviennent cryptiques, et les blancs, bien visibles, et les oiseaux exercent une sélection, et on ne trouve plus que des noirs et de rares blancs. Donc effectivement, la couleur est associée à une reproduction différentielle qui dépend d'ailleurs de l'environnement. Qu'en est-il de la couleur de la peau chez l'homme ? Est-ce que c'est associé aussi à une reproduction différentielle ? Alors, pourquoi ? Alors, à quoi sert la couleur sur la peau ? Alors, l'action des UV, c'est bien connu, ça fait des tas de choses pas très bien. Mais en particulier, ça détruit des molécules qui sont importantes pour la synthèse des nucléotides. La photolyse, la destruction par la lumière de certaines molécules qui sont importantes, donc ça a un effet négatif. Ça a aussi un effet positif, puisque l'UV favorise la fabrication de vitamine D, qui est indispensable pour la croissance, etc. Donc en résumé, l'UV a deux effets, un effet négatif et un effet positif. Quand il y a ces deux choses-là, on s'attend à ce qu'il y ait un peu un équilibre qui se fasse sur la coloration de la peau qui va effectivement moduler plus ou moins la protection aux UV. Donc la question est de savoir quelle est la quantité d'UV qu'il y a à un endroit donné. Et depuis une petite dizaine d'années, on a enfin des données globales sur la quantité d'UV qu'il y a à différentes régions de la Terre. C'est pas une question que de latitude. Il y a des effets aussi de masse continentale. Il y a beaucoup plus d'UV, par exemple, en Afrique que dans la même latitude en Amérique. Donc, voilà, plus c'est noir, rouge ou bleu, là, plus il y a d'UV, et plus c'est jaune, vert, etc., et là, il y a moins d'UV. Donc, globalement, il y a un effet de latitude, mais pas que de la latitude. Donc, à partir d'un état comme ça, on se dit que plus il y a de mélanine, plus il y a d'UV, plus il devrait y avoir de mélanine, quelle est la prédiction que l'on peut faire de la couleur de la peau? Alors, voilà la prédiction qui a été publiée. Donc, on s'attend à des couleurs de peau très foncé en Afrique, voilà, donc avec en altitude aussi, et voilà, un peu moins ici en Amérique. Et maintenant, quelles sont les données par rapport à ces prédictions? Alors, donc je vais vous présenter les données, les valeurs observées de coloration dans une certaine longueur d'onde, là, qui varie du noir au rouge, et là, les valeurs prédites d'après la carte précédente. Donc si jamais les prédictions sont exactement égales aux données, on devrait avoir une ligne comme ça. Voilà ce qu'on obtient dans toutes les mesures qui ont été effectuées. Donc en gros, on a une jolie tendance. Donc effectivement, les UV ont l'air de déterminer la couleur de la peau. Il y a des variations. En particulier, il y a des zones ici où il y a des ethnies qui sont plus claires ou plus foncées de peau par rapport à l'endroit où elles vivent par rapport à ce qu'on attend. Alors, il y a plein d'explications possibles, hein. Juste, par exemple, ici, on a le Groenland. Donc, leur peau est plus foncée par rapport à ce qu'on attend, à leur latitude où ils vivent, par rapport aux UV. Donc, ils sont surprotégés. Ils sont surprotégés, donc ils auraient des déficiences en vitamine D. Mais on sait que leur alimentation est riche en poissons, etc., où il y a beaucoup de vitamine D. Donc, probablement, ils compensent par leur pratique alimentaire le déficit en vitamine D qu'ils ont par leur couleur de leur peau trop foncée par rapport à l'endroit où ils vivent, bon, etc. Juste pour vous dire qu'il y a globalement une adaptation entre l'endroit où on vit et la couleur de la peau en fonction de la quantité d'UV. Ceci a des conséquences importantes parce que vous voyez donc que la couleur de la peau qu'on attend est vraiment très différente suivant l'endroit. Imaginez maintenant une Anglaise, alors pourquoi une Anglaise? Parce qu'une Anglaise peut tomber enceinte, et quand on est enceinte, on a une demande métabolique qui est bien plus importante qu'à d'autres moments de la vie. Si jamais elle va en Afrique, ou ici dans le nord de l'Australie, sa peau très claire va être complètement insuffisante par rapport au niveau d'UV qu'elle va rencontrer. Sa protection étant insuffisante, elle va avoir une photolyse des folates beaucoup plus forte. Or, les folates sont complètement indispensables pour la croissance de l'embryon, pour la croissance normale. Et donc, un médecin devra la supplémenter en folates, ou alors une protection de la peau extrême. Inversement, si des Indiens d'Inde ou des Africains de l'Ouest, par exemple, viennent en Europe, et si une femme africaine ou indienne est enceinte, elle aura une couleur de peau bien plus importante, elle aura une surprotection, elle aura un déficit en vitamine D. Et au moment de la croissance de l'embryon, il faudra qu'elle soit impérativement supplémentée en vitamine D. Donc là, on a le concept d'adaptation locale qui est très important, que l'on voit quand on déplace les gens par rapport à l'optimal de là où ils ont été sélectionnés en fonction de l'environnement. Donc la réponse, oui. La différence de couleur de peau est associée à des valeurs reproductives différentes, puisque chaque niveau de coloration s'est ajusté à un niveau qui était optimal en fonction des UV, suivant l'endroit où les gens vivaient. Donc on peut dire que la couleur de la peau a dû évoluer par sélection naturelle, puisque les trois conditions sont remplies. Maintenant, a-t-on des différences reproductives entre des traits culturels comme le niveau socio-économique? Alors, je vais vous donner plusieurs éléments et je répondrai à la fin d'exposé à cette question, qui est politiquement incorrecte, mais qui est fondamentale pour bien comprendre ce qui se passe chez l'homme. En attendant, je vais vous donner un exemple de comment il peut y avoir une évolution sur un objet culturel. Cet exemple, bon, il est un peu fictif, peut-être pas tant que ça. Il a été proposé par Alain, notre philosophe. Il l'a proposé en 1908. Et c'est absolument incroyable de voir quelqu'un qui n'est pas un scientifique, qui ait compris à ce point-là la sélection naturelle. Qu'est-ce que propose Alain dans un de ses propos ? Il prend l'exemple de l'île de Groix, dans laquelle il y a une pêcherie de thon blanc, et il y a un grand nombre de bateaux. Il dit, les bateaux sont pas tous pareils. J'ai représenté la variation par, ici, des couleurs. Ils sont pas tous pareils, donc ils ont des performances différentes quand ils vont en mer. Certains ont une probabilité plus élevée de revenir quand il y a des tempêtes, et d'autres des probabilités plus faibles. Donc la mer exerce une sélection. Ensuite, il y a un système d'hérédité. Et d'après ce qu'il dit, tout bateau est copié sur un autre bateau. On copiera justement les vieilles coques qui ont résisté à tout. Un bateau qui revient plus souvent a plus de chances d'être copié qu'un bateau qui a moins de chances de revenir. Donc une sélection, une hérédité, les meilleurs bateaux sont copiés. Et quand on copie les bateaux, eh ben, on fait encore des petites erreurs. On recommence le cycle plusieurs fois. Et c'est la mer elle-même qui façonne les bateaux, choisit ceux qui conviennent et détruit les autres. Les bateaux neufs étant copiés sur ceux qui reviennent. De nouveau, l'océan choisit, si l'on peut dire, dans cette élite, encore une élite, et ainsi des milliers de fois. Il avait parfaitement compris la sélection naturelle. Il y a une variation qui est créée quand l'homme copie des bateaux parce qu'il ne les copie pas exactement. Donc l'homme, en copiant des bateaux, fait une hérédité en créant une variation, et la mer sélectionne les meilleurs bateaux parmi ceux qui vont en mer. Et petit à petit, ça conduit vers une forme de bateau qui est optimale par rapport à la tenue en mer. On a une évolution culturelle, un peu, elle n'est pas consciente, mais il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait une sélection naturelle sur un phénomène complètement culturel. Il n'y a aucun gène là-dedans qui intervient. Il suffit qu'il y ait une hérédité, il n'y a pas besoin de gène. Alors c'est un exemple, on ne sait pas si réellement ça s'est passé comme ça, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un exemple pour vous montrer comment, très simplement, on peut avoir une évolution culturelle à partir de la sélection naturelle. D'ailleurs, les ingénieurs ne s'y trompent pas. Les ingénieurs utilisent la sélection naturelle pour trouver des solutions à des problèmes complexes. Par exemple, alors il y a ce qu'ils appellent la programmation génétique. Imaginez que vous cherchiez un régulateur. Alors je ne sais même pas ce que c'est, hein, peu importe. Ça, c'est la définition qu'on a en Wikipédia de ce régulateur PID, qui est le premier régulateur qui a été breveté alors qu'il est issu d'une programmation génétique. C'est-à-dire aucun ingénieur n'était capable de le trouver. En gros, qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai pas coupé mon portable. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez des différents composants. Alors, j'y connais rien en électronique, mais ça, c'est... Vous avez des ronds, des carrés, des petites flèches, et vous faites au hasard un circuit. Vous savez ce que vous voulez obtenir, vous en faites plein au hasard. Vous estimez les performances et vous prenez, par exemple, les 20% meilleurs. Donc vous faites une sélection. Ensuite, vous reproduisez vos circuits. Vous prenez un circuit à un autre, vous prenez la moitié de ça, vous mettez la moitié de l'autre, vous en conservez certains, vous faites des petites variations, et vous recommencez. Et au bout de 20 générations de programme ainsi, vous obteniez un circuit qui a la meilleure performance. Vous copiez donc le processus même de sélection naturelle pour trouver une solution qu'aucun ingénieur n'avait pu trouver. Donc vous faites de la variation, vous évaluez la performance parce que vous savez ce que vous voulez obtenir, vous faites de la reproduction différentielle, ceux qui ont une meilleure performance, vous les faites reproduire plus que d'autres, et vous obtenez rapidement votre solution, etc. Ça, c'est une antenne de la NASA pour satellite qui a été obtenue par ce genre de processus. Donc les branches ont évolué les performances évoluées par informatique, et vous obtenez ce genre d'antenne qui est la meilleure antenne possible pour la performance que vous recherchez. Etc, etc. Il y a des dizaines d'exemples, il y a des sites web consacrés à ça qui vous décrivent tous les résultats obtenus en utilisant la sélection naturelle pour trouver des solutions que les ingénieurs ne peuvent pas trouver tout seuls. Je vais couper lui. Hein. Je coupe mon portable, voilà. Je coupe, il est coupé. Alors évidemment, ça c'est des applications en physique, il y en a dans tous les domaines, en chimie, en biochimie, avec le phage display, je n'entre pas dans les détails, c'est une technique exactement qui copie la sélection naturelle. Qu'est-ce que je voulais dire là ? Donc voilà, donc pour la sélection naturelle, c'est extrêmement simple, il faut juste trois conditions. Ça marche pour des gènes, pour les éléments culturels, et évidemment pour l'interaction entre les deux. Et on va voir que souvent, il y a des interactions, des synergies, parce que les éléments culturels qui évoluent, ils ne sont pas forcément en contradiction avec les effets génétiques. En général, c'est plutôt des synergies qu'il y a. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples un peu chez l'homme, sur cette évolution de gènes et de cultures qu'il y a un peu en même temps. J'ai pris l'exemple de l'alimentation. Alors, l'alimentation, vous avez remarqué que la plupart des espèces ont des alimentations différentes. En fait, chaque espèce a un peu une adaptation, qui est son alimentation. On peut voir l'alimentation comme une adaptation. Et en fait, chez l'homme, il y a des régimes alimentaires différents et qui ont évolué. Alors, en gros, en résumé, l'Homo sapiens, pendant tout le paléolithique supérieur, il était chasseur-cueilleur. Donc, en étant chasseur-cueilleur, il chassait, il cueillait, alors donc son régime alimentaire, ses viandes, poissons, fruits, légumes, en gros. Ensuite, il y a eu l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Donc, à partir de là, les chasseurs-cueilleurs ont diminué, il y avait encore quelques-uns, et là, c'est les agriculteurs qui ont un peu envahi. Hein. Verticalement, c'est un peu la répartition géographique de manière très schématique. Donc, en gros, se sont ajoutés dans le régime alimentaire des céréales et des produits laitiers. Au moment des colonisations, il y a eu échange géographique de plein de produits de l'agriculture. Ensuite, il y a eu la révolution industrielle avec l'industrie, l'alimentation industrielle, qui a un peu envahi tout. Et en gros, bon, c'est peut-être pas quantitativement exact, mais il y a pratiquement plus de chasseurs-cueilleurs et il y a très peu encore de personnes qui se nourrissent de manière de l'alimentation de l'agriculture traditionnelle. Donc voilà un schéma très rapide de l'évolution globale de l'alimentation. Voilà, donc cette alimentation industrielle a rajouté des quantités de sucre et de graisse, voilà, de façon importante. Et en plus, il y a le dernier phénomène de mondialisation qui maintenant homogénise un peu tout au niveau mondial. Alors, je vais vous parler d'un exemple de la transition ici paléolithique-néolithique, et je prendrai un autre exemple sur l'alimentation industrielle pour vous montrer un peu quelles sont les sélections et comment un peu ça évolue. Alors l'exemple que je vais développer, alors au paléolithique là jusque là, c'était ce qu'on appelle dans les médias l'homme de Cro-Magnon. Celui qui peignait les peintures paléolithiques d'Europe de l'Ouest. En particulier, il peignait cette bête qui est le roc, qui est l'ancêtre de la vache. Donc les races de vaches ont été domestiquées à partir de le roc pour faire de la viande, mais aussi pour faire des races spécialement pour le lait. Alors, pourquoi le lait ? En fait, normalement, tous les mammifères boivent du lait, mais après le sevrage, ils ne boivent plus de lait. Et ils sont incapables de boire du lait parce que l'enzyme qui métabolise le lactose est inactivée après le sevrage. Donc tous les mammifères adultes sont intolérants au lactose, Cro-Magnon y compris. Mais effectivement, maintenant, certaines personnes boivent du lait à l'état adulte, et il y a eu donc une évolution, et cette enzyme maintenant s'exprime à l'état adulte. C'est donc un facteur génétique, dont la mutation est bien connue, qui explique cette capacité à boire de lait à l'état adulte. Alors, je vais vous montrer maintenant une étude qui a été faite sur 20 000 vaches européennes, et ils ont analysé des tas de gènes impliqués dans la production de lait, peu importe les gènes. Et en gros, ils ont trouvé en Europe que le maximum de variabilité était dans cette région-là, avec des clines de fréquence, à partir de cette zone de très forte variabilité. Ils ont fait la même étude sur l'homme en prenant le gène de tolérance au lactose. Alors, comme il n'y avait qu'un gène, mais ils ont regardé la fréquence. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Que la fréquence était maximale dans cette zone-là et diminuait en dehors de cette zone. D'autre part, cette zone en pointillé délimite l'extension géographique d'une culture connue de manière archéologique, où on sait que les gens qui vivaient là, il y a quelques milliers d'années, ont élevé des vaches pour le lait. On le sait grâce aux isotopes. Et donc on sait que, on a donc les traces archéologiques, que les races de vaches européennes ont été domestiquées pour le lait, ont été dans cette région-là. Pile la région où il y a plus grande variabilité, et pile la région où il y a la plus grande fréquence de personnes qui sont tolérantes au lactose. Alors, que conclure de ça ? Conclure de ça, ben d'abord, il y a eu une coévolution entre la vache et l'homme, là. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? La vache a évolué génétiquement, par sélection, pour augmenter la production. L'homme s'est aussi adapté génétiquement pour pouvoir tolérer le lactose et boire le lait à l'état adulte. Mais il y a aussi une évolution culturelle, parce qu'on n'élève pas un troupeau de vaches de la même façon quand c'est pour en tirer le lait ou pour en tirer de la viande. Donc il y a une évolution complexe qui s'est faite en quelques milliers d'années sur ce trait-là. Alors de manière intéressante, on a la même histoire indépendante en Afrique, dans les endroits où il y a eu sélection de races de vaches pour le lait. Et ce gène de tolérance au lactose est en fréquence extrêmement faible ou inexistant dans tous les groupes humains qui n'ont pas domestiqué d'animaux pour en tirer le lait. En Amérique et en Asie. La même histoire indépendante sur une mutation légèrement différente, c'est comme ça qu'on sait que c'est des événements indépendants, et ce gène est donc apparu au total 4 fois, une fois en Europe, 3 fois en Afrique, toujours pour la même raison sélective. Donc là, on a clairement la signature d'une adaptation qui s'est répétée dans différents endroits. Donc maintenant, je vais vous parler d'une évolution alimentaire beaucoup plus récente. Alors, je vais passer par l'évolution de la concentration en glucose dans le sang en fonction du temps à partir d'une prise alimentaire. Donc, quand on prend des aliments traditionnels après la révolution néolithique de l'agriculture. Donc des fruits, des légumes, du pain normal. Alors forcément, il y a plein d'amidons ou de sucres complexes qui sont décomposés petit à petit. Donc ça libère du glucose qui augmente et ça fait un petit pic comme ça. Donc en général, quand ça fait un petit pic, voilà, donc ça stimule un petit pic d'insuline. L'insuline est une hormone qui va faire le stockage de ce glucose dans différents compartiments. Maintenant, un aliment industriel, ce genre de choses, même du pain avec la farine industrielle, qu'est-ce qu'on a ? On a des quantités de sucre rapide extrêmement élevées qui font une hyperglycémie. Cette hyperglycémie fait une hyperinsulémie. Et cette hyperinsulémie, quand on regarde la littérature médicale, qui est absolument abondante sur le sujet, je vous passe les détails. Ça, c'est vraiment extrêmement schématique. Mais en gros, ça interagit avec l'hormone de croissance. Les hyperinsulémies interagissent avec l'hormone de croissance et donc on va voir que ça va interagir avec tout. Et en particulier, ça interagit avec tous les facteurs de croissance du globe oculaire au moment de la croissance. Et d'après ces gens-là, ça expliquerait la myopie. Alors la myopie, regardons un petit peu ce que nous disent les anthropologues qui ont mesuré des yeux dans plein de sociétés traditionnelles à différents endroits. Par exemple, ici, au Gabon, sur un grand nombre d'individus, ils ont trouvé 0,4% de myopes. Et en général, ces 0,4% de myopes sont des myopes de faible amplitude, un nombre de dioptries assez faible. Alors pareil, ça c'est des Inuits, voilà, c'est en 1954, 1,2% de myopes. Donc là, qu'on soit agriculteur au Gabon ou chasseur-cueilleur, le nombre de myopes est très faible. Alors maintenant, regardez bien les Inuits d'Alaska, là on n'a pris que des vieux, 1,5%. Pourquoi on a pris des vieux ? Parce que tous les jeunes de cette même population, ils ont un pourcentage de myopes énorme. Et c'est pile le moment où il y a la transition alimentaire. Donc tous ceux qui étaient jeunes au moment de la transition alimentaire, qui ont eu accès à une alimentation non traditionnelle, pour eux, et occidentale, avec ces hyperinsulinémies et ces dérèglements, voilà, 51% de myopes. En fait, en Europe, actuellement, il y a 25-35% de myopes. Au hasard, à Singapour, c'est les pourcentages les plus élevés. Sur 15 000 conscrits, on a trouvé entre 60 et 80% de myopes. Alors, évidemment, l'explication traditionnelle, oui, mais c'est la lecture. Alors, il y a des tas d'articles, il y a une littérature extrêmement abondante. J'ai juste un résumé. Où dans des situations d'alimentation traditionnelle et de scolarisation, on trouve très peu de myopes, toujours ces 0,2% qui sont peut-être d'origine génétique, on ne sait pas. Mais quand l'alimentation change, toujours scolarisée, on monte rapidement à un grand nombre de myopes. Alors une fois, quelqu'un m'a fait remarquer, oui, mais il existe des myopes monoculaires, ceux qui travaillent sur les microscopes. Oui, on peut devenir myope par des habitudes un peu particulières, mais c'est anecdotique par rapport à ce qui explique l'alimentation. Donc l'explication actuelle du grand pourcentage de myopes, c'est alimentaire. C'est la myopie qui se déclare pendant la croissance entre 0 et 20 ans. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, ces hyperglycémies et hyperinsulinémies interagissent avec l'hormone de croissance. Donc l'hormone de croissance, effectivement, on va s'attendre à ce que ça interagisse avec plein de trucs, et forcément avec la taille. Mais si ça agit sur la myopie et sur la taille, on devrait avoir une interaction entre les deux. C'est exactement ce qu'on observe. Ici, on a l'âge, et en fonction de l'âge, la taille augmente. Ça, c'est normal. Mais les myopes, à tout âge, sont plus grands que les non-myopes. Exactement ce qu'on attend, c'est une interaction entre la myopie et la taille. Donc effectivement, on est plus grand avec l'alimentation riche en sucre, mais on a plus de chances d'être myope. J'ai dit que ça interagissait avec tout. Cette liste-là, elle est non close, ça s'appelle le syndrome X. Je vous présente quelques autres éléments. L'acné. L'acné, c'est incroyable, hein. On est tous habitués à ce que les adolescents aient de l'acné. C'est juste une habitude qui est extrêmement récente. Pareil que pour la myopie. En société traditionnelle, on n'a jamais vu quelqu'un avec de l'acné et aucun adolescent. Les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les adolescents, ils ont aussi des poussées d'hormones. Il n'y a pas d'acné chez les chimpanzés. Il y a 2-3 siècles, même avant, au 19e, 18e, il n'y avait pas d'acné chez les adolescents. Ça n'existait pas, il n'y avait même pas de mot pour ça. Le mot, il provient de la moitié du 19e siècle. Et encore, c'était en connotation uniquement médicale. Actuellement, il y a un grand nombre de gens qui ont des acnés, même pour les gens qui sont plus adolescents, etc. etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les hormones, le sucre déplace le niveau de sensibilité par rapport à l'hormone, et l'hormone a l'air de déclencher l'acné. Mais dans une alimentation où il n'y a plus de sucre, les hormones ne déclenchent plus l'acné. Donc, on impute la cause aux hormones, mais la vraie cause, c'est l'alimentation. On a fait un changement de cause intéressant sur l'origine de l'acné. Le diabète de type 2, il y a tellement d'insuline qu'on devient résistant à sa propre insuline, c'est le diabète de type 2, etc. etc. Alors, pourquoi on est arrivé à une telle situation ? Le sucre, de manière traditionnelle, est un aliment rare. Un aliment rare, on en trouve dans quoi ? On en trouve dans des fruits, c'est saisonnier. On en trouve dans du miel, c'est quand même pas hyper fréquent. Ça a une forte valeur nutritive, donc forcément quelque chose de rare qui a une forte valeur nutritive, est recherché. Et ceux qui appréciaient et qui aimaient le sucre, dans ces conditions-là, ont été sélectionnés. Donc notre capacité à aimer le sucre a été sélectionnée dans un contexte où le sucre était rare et énergétique et recherché. Mais d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? D'un coup, pouf, il est devenu disponible de manière extrêmement abondante. On a toujours cette propension à le rechercher, à l'apprécier, etc. Donc on en consomme des grandes quantités. Et donc forcément, on a des effets forts sur la santé. Donc on a des effets forts sur la santé. Est-ce que ça va faire une sélection ou pas ? Alors, d'abord, il peut y avoir une évolution culturelle. Par exemple, des habitudes, voilà, la brosse à dents, ça limite certains effets. Il peut y avoir des pratiques médicales, par exemple pour la myopie, il y a toute une série de pratiques culturelles, plus ou moins chères, hein, plus ou moins accessibles, plus ou moins le statut socio-économique d'ailleurs, qui essayent de circonvenir à la myopie. Il peut y avoir des lois qui peuvent intervenir pour limiter l'accès de sucreries aux enfants. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que ce genre de choses se met en place de manière extrêmement lente, pour des tas de raisons dont on pourra reparler. Il peut très bien avoir aussi une évolution des préférences pour certaines catégories. S'il y a l'obésité qui augmente, il se peut très bien que les préférences de partenaires évoluent en fonction de l'évolution phénotypique que l'on observe. Est-ce qu'il peut y avoir une évolution génétique ? Alors peut-être, mais pour qu'il y ait une évolution génétique, il faut qu'il y ait reproduction différentielle. Et en général, ça prend du temps. Donc toutes ces évolutions de myopie, là, c'est en quelques décennies hein, que c'est apparu, hein, ce genre de choses. Donc c'est beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une évolution génétique sur ce genre de choses. L'évolution génétique prend énormément de temps, il faut quelques dizaines de générations au moins, avec des effets forts. Donc c'est minimum quelques siècles. Et il faut qu'il y ait la reproduction différentielle, donc par exemple, il faudrait que les myopes se reproduisent moins que les non-myopes. Bon, il n'y a aucune donnée là-dessus. C'est peut-être le cas. Hein. Pour la taille, il y a des choses. Hein. En général, les personnes un peu plus grandes ont tendance, les hommes, à plus se reproduire. Il y a une certaine limite aussi. Enfin bon, je vous montrerai des données sur la taille tout à l'heure. Maintenant, je veux parler un peu plus de reproduction différentielle, parce que c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas tellement chez l'homme. L'agriculture, l'arrivée de l'agriculture, a été un événement considérable pour la reproduction différentielle. Pourquoi ? Parce que, avant, les ressources étaient non accumulables. Ou très peu accumulable. Vous avez tué un mammouth, vous ne pouvez pas le conserver très longtemps. Par contre, avec l'agriculture, on peut accumuler des graines, on peut accumuler du bétail. Et à partir de là, du moment qu'on peut accumuler des richesses, on peut les accaparer, on peut les disputer. Et surtout, on peut les tourner à son propre profit pour sa propre reproduction. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, soi-disant l'agriculture, cet événement génial chez l'homme, ça a été le début d'une reproduction différentielle comme il n'y avait jamais eu auparavant. Et je vais vous montrer les éléments qui soutiennent un peu cette idée. Donc, dès que c'est accumulable, voilà, hein, dès qu'on dispute les ressources, c'est un peu l'origine des guerres telles qu'on les... Bon, il y avait des guerres avant, même les chimpanzés se font des guerres. Mais à un degré qui n'était pas connu auparavant. Alors d'ailleurs, à propos des guerres, juste vous parler des Yanomamo, qui est une tribu au sud du Venezuela. Et chez les Yanomamo, il y a une catégorie sociale qui s'appelle les Unokai. Les Unokai, c'est ceux qui ont participé à des raids et qui ont déjà tué d'autres personnes. Maintenant, alors c'est une société polygyne. Donc il peut y avoir plusieurs femmes, comme la grande majorité des sociétés humaines. Et en gros, si on met le nombre de femmes qu'ils ont en fonction des catégories d'âge, alors on s'aperçoit que quand on est non-guerrier, son nombre de femmes augmente avec l'âge, ce qui est normal. Plus on est âgé, plus on accumule des ressources, plus on peut avoir de femmes. Comme ça, ça fonctionne dans les sociétés polygames. Par contre, quand on est unokai, qu'on a déjà tué quelqu'un, on a un statut social bien plus élevé. Et là, on observe qu'on a plus de femmes, quelle que soit la catégorie d'âge. Évidemment, on a la même chose sur le nombre d'enfants. Donc, les mêmes catégories d'âge, le nombre d'enfants. Quand on est non-guerrier, le nombre d'enfants, forcément, augmente avec l'âge. Et quand on est guerrier, on a des différences du nombre d'enfants en moyenne, qui est de plus de 2 enfants en moyenne, ce qui est considérable. Donc, évidemment, pourquoi ils se font la guerre, les Yanomamo, c'est... un des buts directs ou indirects de la guerre, c'est récupérer les femmes de la tribu d'à côté. Et donc maintenant, les évolutionnistes pensent, les historiens aussi, que l'origine des guerres, c'était aller prendre les femmes, les ressources reproductives du voisin. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire qui a commencé à Sumer, comme on le sait, comme tout le monde le sait, voici ici l'origine de l'écriture des Sumériens. Donc vous voyez là, vous avez l'évolution de l'écriture, un signe là, là c'est devenu cunéiforme, et là différents signes. Donc ça c'est tiré de Jean Bottero. Et en gros, à quoi servait cette écriture? À chaque fois, l'écriture est apparue 4 fois indépendamment, ça avait une fonction mnémotechnique de comptabilité. Évidemment, on a besoin de comptabilité quand on a énormément de ressources. Et les plus grandes sociétés structurées sont apparues après l'agriculture. Alors maintenant, regardez bien un signe, celui-là. Il est composé de quoi? Un triangle pubien et des montagnes. Que nous dit Jean Bottero? Ça veut dire la femme ramenée d'étranger. Ça veut dire l'esclave de sexe féminin, qui était comptabilisé aussi parmi toutes les ressources. Donc les hommes les plus puissants, ils accumulaient des ressources, mais ils accumulaient des femmes qu'ils allaient capturer. Et donc, ils se constituaient des harems. D'après vous, quelle est la taille maximale des harems que l'on connaisse? La Turquie, combien? 800. Qui dit mieux? Le roi Salomon, ouais, dans la... Alors... Des harems de quelques femmes, on en trouve pas mal. Par exemple, Lévi-Strauss, dans son Triste Tropique, a décrit que les Nambiquara, le chef, il avait 2-3 femmes que lui octroyait le reste de la société, enfin du troupe. Et quand on se balade, même actuellement en Afrique, on trouve facilement, plusieurs femmes. Des harems de plusieurs dizaines, c'est aussi chose courante. Voilà quelques exemples. Des harems de plusieurs centaines, il y en avait, oui, il y a encore de la place là. Il y en avait effectivement énormément, là, c'est que quelques exemples, hein, les Romains, le roi Salomon, on y revient, voilà. Au Maroc, hein, charnière 17e, 18e siècle, etc. Mais des harems de plusieurs milliers, il y en avait aussi énormément. Le record est un roi indien du XIIIe siècle qui, d'après les sources historiques, en avait 16 000, qui est peut-être battu par un empereur de Chine qui avait un harem de 10 000 femmes, et il avait peut-être plusieurs harems de 10 000 femmes dans plusieurs villes. Alors, effectivement, la reproduction différentielle est considérable. Je vais vous parler en détail. Je vais prendre ces 4 exemples pour illustrer quelques petits points importants. Donc tout d'abord, on va regarder ce roi du Maroc. Ce roi du Maroc, il avait un harem de 500 femmes. Il était marié à 4 femmes, d'après sa religion. Et toutes ces femmes avaient moins de 30 ans. Une fois qu'elles avaient 30 ans, elles étaient réformées et remplacées. Il y a eu toute une discussion dans la littérature sur... combien il a pu avoir d'enfants, sachant qu'il est crédité de plus de 880 enfants. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, je vous passe les détails sur tous les calculs. En gros, apparemment, avec 1,2 copulations par jour, c'est suffisant pour avoir 880 enfants, en prenant en compte que tous les cycles ne sont pas ovulatoires, qu'il y a une probabilité de non-implantation, etc., en prenant tous les paramètres possibles, juste en considérant que les femmes n'étaient pas présentées à l'empereur en dehors de, pendant la période menstruelle, et en faisant l'hypothèse, qui est probablement très forte, qu'ils ne connaissaient pas la période de fertilité. Si jamais on fait une période de fertilité d'une semaine à la période que nous indique la science moderne, ça augmente le nombre d'enfants à plus de 3000. Donc je vous laisse juge de la cohérence ou de la réalité possible de ce genre de choses. Mais effectivement, les propriétaires de CRM, probablement, avaient un très grand nombre d'enfants. D'autant plus que dans d'autres cas, par exemple les Chinois, avaient une connaissance de la période de fertilité qui était très peu différente de ce que nous dit la science actuelle. Effectivement, chaque femme était, toute sa période menstruelle, le cycle était noté pour optimiser ses chances d'être représentée à l'empereur pour la copulation, pour augmenter la fertilité. D'ailleurs, voilà, cité interdite, donc voilà, vous connaissez toutes ces images de la cité interdite, où la nuit, il y avait qu'un seul homme et puis des eunuques. Donc, ouais, comme j'ai déjà dit, le cycle de chaque femme était enregistré, la période de fertilité était connue. Et donc, effectivement, c'était des machines à reproduire les gènes du propriétaire du harem. Alors maintenant, je vous présentais le cas des Incas. Le roi, on ne connaît pas exactement la taille de son harem, c'était bien plus de 1500 femmes. Par contre, en fonction de son statut social, il y avait des règles précises qui indiquaient le nombre maximal de femmes suivant son rang. Les nobles Incas ne pouvaient pas dépasser 700. Et en fonction, alors il y avait des noms pour ça, en fonction de son importance sociale, on avait un nombre de femmes qui était extrêmement régulé. Et effectivement, dans ces conditions, le paysan de base, on ne sait pas trop ce qu'il avait. Mais en gros, le lien entre statut social et reproduction était extrêmement clair et établi socialement. Dernier exemple, celui des Romains. Les Romains étaient monogames et polygynes. Monogames et polygynes. Monogame, ça veut dire quoi ? Qu'ils pouvaient se marier à une seule femme. Le mariage permet de désigner la femme qui va donner les héritiers. C'est la fonction du mariage, la fonction sociale du mariage. Alors, un héritier, en général, c'est un mâle. Mais par contre, ils étaient polygynes, parce qu'ils se reproduisaient abondamment avec les esclaves. D'ailleurs, quand les Romains affranchissaient quelqu'un, ce n'est pas un beau geste philanthrope, l'affranchi, c'était un de ses descendants, un de ses enfants. Un affranchi n'est pas encore un homme libre, mais la génération suivante, un descendant d'affranchi, sera un homme libre. Donc c'était un moyen de redonner une chance à certains de ses enfants qu'il avait obtenus par son harem, le mot n'est pas employé pour la société romaine, mais ça revenait à ça, qui étaient ses nombreux esclaves. Et évidemment, en fonction des ressources, il pouvait en avoir plusieurs centaines, et tout cela avait plusieurs centaines d'esclaves femmes avec lesquelles il se reproduisait. Donc, les Romains en Occident ont vu apparaître la primogéniture, le système d'héritage qui permet que tout l'héritage aille à un seul héritier. Pas question de diviser toutes ces ressources qui permettent de faire cette machine reproductive. Le donner à une fille, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas parce qu'elle a plus de ressources qu'elle va forcément plus se reproduire à ce niveau-là. Par contre, un homme, oui, en lui donnant plus de femmes, il aura plus de reproduction. Donc la primogéniture s'explique dans un contexte reproductif pour maximiser son nombre de gènes. Donc c'est un système social qui permet d'optimiser la reproduction en fonction de ses ressources. Et la primogéniture est apparue dans toutes les sociétés fortement hiérarchisées, que ce soit en Égypte, en Chine, les Incas, les Aztèques, tous ils avaient la primogéniture. Qui ne peut s'expliquer que dans un contexte reproductif. Alors, maintenant, actuellement, dans nos sociétés, la monogamie est socialement imposée. Les sociologues parlent de polygynie séquentielle ou de polyandrie séquentielle, c'est-à-dire que les gens se marient ou sont ensemble, divorcent. Donc c'est séquentiellement qu'il y a plusieurs partenaires. C'est le mode de reproduction admis actuellement. La primogéniture est supprimée depuis la Révolution, donc partage égal des ressources. Alors, il y a un progrès indéniable vers, en ce qui concerne la femme par rapport à sa condition précédemment. Alors là, je vous montre des données sur une cohorte anglaise. Ils ont pris une cohorte, c'est simple, ils ont pris tout le monde en Angleterre, né entre le 3 et 9 mars 1958. Ils ont pris tout le monde, tout statut socio-économique. Et en 2004, tout le monde avait 46 ans, donc un gros effectif. Ils ont regardé la proportion des gens qui étaient sans enfants en fonction de leur statut socio-économique. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Plus on est en bas, plus on a de chances de ne pas avoir d'enfants. Et c'était d'ailleurs, ces différences n'étaient pas significatives, celles-là l'étaient. Donc là, il y avait des tendances. Donc actuellement, en fonction de son statut socio-économique, il y a effectivement une reproduction différentielle. Ça, c'est les données les plus marquantes, mais il y a des tas d'autres données qui montrent le même résultat en Suède, etc. Maintenant, je vous montrerai un peu une analyse globale sur la reproduction différentielle. Là, c'est une mesure de la reproduction différentielle, une analyse globale qui a été faite sur tous les animaux actuellement. Donc là, c'est le nombre d'études. Là, il y a plusieurs centaines d'études. Et en gros, chez certaines espèces, il y a une forte reproduction différentielle entre les individus. Et là, une faible. Maintenant, où se situe l'homme là-dedans ? Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose suivant les différents endroits. En prenant les sociétés polygames africaines, on trouve une valeur qui est assez forte. Donc, dans ces sociétés-là, il y a une forte reproduction différentielle. Forcément, il y a plein d'hommes qui n'ont pas de ressources suffisantes pour avoir autant de femmes que certains qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus de ressources. Les sociétés européennes historiques. Il y a eu beaucoup d'études sur les registres d'état civil en Allemagne, en Suède, en Finlande, où on a pu regarder le nombre d'enfants sur plusieurs générations en fonction du statut social. Et en gros, globalement, on a une reproduction différentielle encore importante, mais qui est plus faible que les sociétés polygames, parce que ce sont des sociétés qui imposent la monogamie. Et les quelques mesures qu'on a en société occidentale contemporaine, on a encore une valeur un peu plus faible. Donc, apparemment, il y aurait une tendance pour aller vers une reproduction différentielle moins forte, une plus grande égalité reproductive entre les individus. Alors, bon, ça, c'est une évolution culturelle, et probablement les revendications sociales, comme les allocations familiales, etc., peuvent s'interpréter comme des revendications pour une reproduction plus égale. C'est une interprétation qui n'est pas du tout habituelle, mais qui permet, à mon avis, de mieux comprendre ce qui se passe. On n'est pas habitué à interpréter tout ce qui se passe autour de nous en termes de reproduction différentielle. Pourtant, c'est le moteur principal qui explique la plupart des choses. Alors, l'évolution culturelle ne va pas forcément dans le sens opposé à l'évolution génétique. On a vu pour la tolérance au lactose, les évolutions culturelles allaient dans le même sens, développer une pratique d'élevage des vaches pour mieux en tirer le lait. Il y a des tas d'exemples, alors je ne vais pas parler des amylases, depuis l'agriculture on a beaucoup plus d'amidon et nos gènes d'amylase se sont amplifiés. Il y a de plus en plus d'exemples, ils sont tous récents, ils datent de quelques années et maintenant avec les résultats du génome on voit de plus en plus d'exemples d'adaptation génétique. En fait, ce que nous disent les analyses des génomes, c'est qu'on observe une accélération de l'évolution adaptative humaine au niveau génétique, principalement depuis le néolithique, pour des tas de raisons. Les populations ont augmenté, ça a augmenté la sélection, l'environnement a changé de manière extrêmement forte, et on voit des tas de traces génétiques d'adaptation très récentes. Bon, alors là, c'est un petit clin d'œil sur la sélection naturelle sur la résistance à H1N1, est-ce que ça va faire une résistance ? Alors pour l'instant, ce n'est pas terrible. Hein. Pour l'instant, il y, il y a moins de 6000 personnes qui sont mortes du virus sur l'ensemble de la Terre. C'est rien du tout pour l'instant. Le différentiel de sélection est extrêmement faible. Il faudrait qu'il y ait une mortalité bien plus importante, comme la grippe espagnole, par exemple, pour avoir un différentiel de sélection qui permet de sélectionner vraiment les résistants, soit d'un point de vue génétique, soit d'un point de vue culturel. Hein. Culturellement, on peut avoir accès à certains médicaments plus que d'autres, etc. En tout cas, la reproduction différentielle est un enjeu social fort, évidemment, dont personne ne parle. Cela joue probablement sur plein de choses, dont les capacités cognitives. Alors, pourquoi les capacités cognitives ? Alors, je vais y revenir. Pourquoi les capacités, caractéristiques physiques ? Alors, juste, je vous présente des données qui sont des données brutes, pas des données analysées. Alors, c'est quoi ? C'est en fonction... Ça, c'est la taille. En fonction de la probabilité de réussite à la première année d'université sur un échantillon de presque 1 million de Suédois. Donc, en gros, plus on est grand, plus on a de chances de réussir la première année d'université. Et c'est vrai, quelle que soit la cohorte. Ce sont des données brutes. Et quand on contrôle pour des tas de variables, les résultats ne bougent pas. La taille n'est pas indépendante de la réussite. Alors, pourquoi ? On n'en sait rien. Et réussir l'université, en général, ceux qui passent par l'université ont en moyenne un salaire plus important que ceux qui ne vont pas à l'université. Et comme il y a un lien entre le niveau socio-économique et la reproduction, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc les capacités cognitives, j'y reviens, c'est effectivement, ça serait dur de dire que les capacités cognitives n'interviennent pas quelque part pour la réussite à l'université. Du moins, on peut espérer. Donc effectivement, il y a peut-être une sélection différentielle sur cette capacité à faire des études supérieures qui permet d'avoir un statut socio-économique plus important. Mais il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas parce que c'était globalement très peu étudié de ce point de vue-là, évidemment. Donc j'ai déjà parlé de l'évolution conjointe des préférences qui vont aussi évoluer. Donc maintenant, je reviens au début de l'exposé, l'homme évolue-t-il ? Alors, évidemment, oui. Je rajouterais, évidemment, si l'homme n'évoluait pas, ça serait vraiment la seule espèce dans le monde vivant qui ferait ce genre de choses. Toutes les espèces évoluent. Évidemment, faire des prédictions est difficile. Vers quoi l'homme va évoluer ? Pourquoi ? Ben, replacez-vous il y a 50 ans et constatez l'évolution culturelle qu'il y a eu. Il y a eu un changement alimentaire. Il y a encore 50 ans, il n'y avait pratiquement pas de myopes, il n'y avait pas d'ordinateur, la médecine n'avait pas fait autant de progrès que maintenant, les réseaux sociaux étaient beaucoup plus serrés et développés que maintenant, il n'y avait pas la télévision qui a un peu cassé plein de choses, il n'y avait pas la contraception, enfin il n'y avait plus la contraception qu'il y avait auparavant, etc., etc. Et toutes ces choses-là interagissent de manière génétique et culturelle, donc c'est extrêmement dur de prédire comment toutes ces choses-là vont évoluer dans 50 ans. Bon, heureusement, il y aura encore des hommes et des femmes, c'est ça qui est important, et je terminerai là-dessus, et je vous remercie.
Merci. Donc, on va passer maintenant aux questions. Donc, c'était ouvert, je pense, au niveau de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à M. Raymond. Voilà, il faut une première question. Je regarde. Non. Oui. D'accord, merci.
Une question.
Ah, j'arrive, deux petites secondes, pardon.
Merci. Que pensez-vous de la thèse d'un nutritionniste, entre guillemets, américain qui s'appelle D'Amado, qui lie l'évolution des groupes sanguins à l'évolution de la sédentarisation, de l'agriculture, etc. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans sa thèse à lui, il lit par exemple que le groupe d'origine, c'est le groupe O. Ensuite, le groupe A... est né de la sédentarisation des agriculteurs. le groupe B de l'élevage par des nomades, et le groupe AB, il y aurait un millier d'années à peine par un mélange. Est-ce que ceci a des bases sérieuses ou pas?
Je connais pas bien cette théorie sur l'évolution des groupes sanguins. Il y a des effets sélectifs.
Pardon, les micros, si vous voulez. On enregistre.
Il y a eu des effets sélectifs publiés dans la littérature, mais je ne pourrais pas vous développer plus en détail. Je n'ai pas regardé ça de près, l'évolution des groupes sanguins. Bon, il y a des sélections avec le système O quand la mère est... Mais à part ce genre de choses, il me semblait qu'il y avait des interactions aussi avec certaines maladies. Mais voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais du point de vue alimentaire, ce n'est pas évident d'avoir un lien causal entre l'alimentation et les groupes sanguins. Mais bon.
Vous nous avez parlé d'évolution. Et est-ce qu'on peut aussi parler de progrès ou pas de progrès?
Alors, le progrès, c'est une notion morale, pratiquement morale. C'est un jugement sur si c'est bien ou pas. En général, les évolutionnistes, avec la notion de progrès, ils sont un peu fâchés. Est-ce qu'il y a progrès? Bon, je peux vous présenter les choses de façon différente. Avant le néolithique, il y avait des inégalités qui étaient beaucoup plus faibles qu'après le néolithique. Alors, est-ce que c'est un progrès? Il y a plus de reproduction différentielle après. Alors, si vous considérez que c'est bien, il y a un progrès. Si vous considérez que c'est mal, ce n'est pas un progrès. Si vous faites... Ah ben, non, je crois que j'avais préparé un petit truc là-dessus. Attendez. Voilà. La mortalité maternelle. Donc la mortalité maternelle, c'est la proportion de femmes qui meurent lors de l'accouchement. Et on considère qu'il y a un progrès de la médecine. Pourquoi? Parce que, bon, il y a une valeur arbitraire assez faible actuellement, qui est bien plus forte que ce qu'on avait au 19e. Le problème, c'est qu'au 19e, c'est là qu'il y a eu des tas de changements avec la révolution industrielle, ça a cassé plein de choses socialement. Et avant que Pasteur invente sa théorie bactérienne, il y avait Semmelweis qui était un médecin qui essayait de dire que pour accoucher les femmes, fallait se laver les mains. Il est mort fou parce qu'il était ridiculisé. Et il y avait une mortalité dans les hôpitaux qui était effrayante. Plusieurs, 10, 20, 30% de femmes mouraient dans les hôpitaux. Donc effectivement, la médecine a fait un grand progrès, puisque actuellement le taux est très faible. Mais si on regarde auparavant, il y avait une mortalité plus importante, mais la médecine a d'abord créé, elle a résolu les problèmes qu'elle a elle-même posés, en imposant l'accouchement sur le dos. Nulle part, dans aucune société humaine, on accouche sur le dos. Ça a été imposé par les médecins occidentaux pour leur propre confort d'observation. C'est une des plus mauvaises positions pour accoucher. Ils ont imposé ça, ça a créé des tas de problèmes, clac, qu'ils ont petit à petit résolus. Donc effectivement, le progrès est tout à fait relatif. Il y a d'abord une régression, et le réel progrès, il est beaucoup plus faible, parce qu'effectivement, le pourcentage actuel est un pourcentage extrêmement faible qui n'existait peut-être pas auparavant. Donc il y a plein de choses à dire sur le progrès. Il y a des choses un peu relatives comme ça. Si on considère que la mortalité, qu'une faible mortalité maternelle est un progrès, à ce moment-là, ça n'a pas été linéaire. Et c'est le cas pour plein d'autres choses aussi. Mais après, est-ce que la reproduction différentielle, etc., ça, on tombe sur des considérations politiques, sociales et politiques, qui sont tout à fait relatives. Oui.
Oui, je voudrais aborder la question de la démographie actuelle, si vous voulez. Il y a des sociétés qui sont en expansion rapide démographique et qui sont réputées plutôt non évoluées, enfin disons l'Afrique noire, etc., en voie de développement. Des sociétés qui sont réputées très développées, comme les sociétés européennes, dont certaines sont en plein collapsus démographique. Quelles conclusions pouvez-vous en tirer?
Bon, je ne suis pas démographe. Mais une société plus développée, c'est encore une notion relative. Parce que certaines... Enfin, voilà. Donc c'est complètement relatif de dire que telle société est plus développée. D'un point de vue technique, mais... c'est pas parce qu'elles dominent qu'elles sont forcément... Enfin, sous-entendu, elles sont meilleures, quoi.
Non, elles sont pas forcément meilleures. Je dis simplement qu'elles ont accumulé toute une suite de progrès techniques remarquables.
Oui.
Que d'autres sociétés n'ont pas...
D'accord.
N'ont pas encore...
N'ont pas encore, ouais. Enfin, il n'y a pas de déterminisme à ce qu'elles le fassent, quoi.
Quelque temps l'Espagne et même l'Italie, hein, pour voir ce qui est devant nos yeux, où apparemment les taux de fécondité sont de l'ordre de 1,3, 1,2, l'Espagne s'est descendue à 1,04 à une époque autour de l'an 2000, etc. Bon, on est dans une sorte d'incertitude, on ne sait pas si ça va remonter, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une sorte d'abandon des populations? Enfin, chose comme ça, ce collapsus, est-ce qu'on compte sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Alors que des sociétés où alors le revenu par habitant est extrêmement faible, je ne sais pas, Afrique centrale, ce que vous voudrez, elle, au contraire, explose démographiquement, même si elle commence à régulariser.
Bon, il y a plusieurs choses à répondre là-dessus. Tout d'abord, la transition démographique, le fait de baisser, d'observer une baisse de la fécondité moyenne qui a eu lieu en Europe, est en train de se passer dans plein de pays, dès qu'ils accèdent à un certain niveau de vie. C'est ce qui se passe en Iran. Et ce changement démographique est expliqué par le fait qu'il est plus important d'investir dans la qualité des enfants plutôt que dans la quantité, quand l'espérance de vie augmente. Donc ça, c'est l'explication classique pour expliquer la transition démographique. Alors après, quand différents pays ont différentes... ont différents cheminements démographiques, ça peut amener à des problèmes. Et comment il s'appelle le démographe, son nom m'échappe, qui prédisait qu'en fonction de certaines pyramides démographiques, il prévoyait les conflits et les guerres de manière assez fine en fonction des profils démographiques. Comment il s'appelle? Un Français là qui... Non,
un collègue
à nous. Hein?
Ouais. Chenu, non, c'est pas ça.
Non.
Démographe. Enfin, bref, admettons qu'on l'ait trouvé, c'est clair.
Et voilà, donc, moi, je ne suis pas démographe, donc, c'est des phénomènes entre sociétés. Moi, je suis plus intéressé à ce qui se passe dans une société pour comprendre les problèmes de sélection. Quand on compare deux sociétés avec des fécondités différentes, ces fécondités ne sont pas en compétition, donc on ne peut pas les comparer directement. On ne peut pas dire que la valeur reproductive est plus importante. La valeur reproductive a un sens que dans une société, en fonction des personnes en compétition dans le pool reproductif. Entre la France et le Chili ou n'importe quel pays, il n'y a pas de compétition. Disons que
entre la France et l'Allemagne, par exemple, sont deux pays voisins qui sont réputés entretenir des relations à droite. Bon, la France est une sorte d'équilibre. Hein. Elle est arrivée à 2 et quelques, alors que l'Allemagne est à 3. Bon, c'est quand même une signification. Mais je ne sais pas. Bon, peut-être qu'on ne peut pas donner d'interprétation valable de ça.
À mon avis, il faut voir sur le plus long terme ce que ça va donner. Il y a eu un article qui est paru il y a un mois qui montrait les prémices d'une remontée, par exemple. Donc je pense que c'est un peu trop tôt pour voir ce qui va se passer.
Oui, vous avez parlé des sucres. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, si vous allez voir une nutritionniste... Elle va vous dire pas plus de 4 fruits par jour. C'est bien, quoi. Hein? Bon. Si vous allez voir une nutritionniste des chimpanzés, elle ne va pas vous dire ça. Parce que eux, ils mangent des fruits mûrs. donc plein de sucre. Apparemment, ça ne leur procure pas d'ennui. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que ça veut dire que dès le départ, quand il y a la dichotomie entre eux et nous, ça fait partie de la dichotomie, ça? C'est-à-dire, c'est un caractère génétique qui apparaît à ce moment-là, qui fait que...
Non. Quand on mange des fruits, on n'a pas d'hyperglycémie. Parce que quand on mange un fruit, le sucre, il est empaqueté dans plein de choses et il diffuse lentement. Par contre, si on l'extrait dans un jus de fruits, clac, ça devient un sucre rapide.
C'est-à-dire, votre réponse, c'est on peut manger des kilos de fruits,
oui,
sans problème.
Pour le sucre.
J'en parlerai à ma nutritionniste. Hein.
Vous pouvez manger tous les fruits que vous voulez, tous les légumes. Après, on peut entrer dans le détail. Il y a des tas de variétés de pommes de terre, etc., qui ont été sélectionnées pour être beaucoup plus en sucre rapide, par exemple. Et les variétés actuelles, eh ben, ça devient des sucres rapides, alors que les variétés traditionnelles, c'est des sucres lents. Mais à part ce genre de subtilité sur les dernières variétés qui ont été sélectionnées pour être plus appétantes, parce que quand elles sont en sucre rapide, on a une impression sucrée plus développée et on préfère.
Donc, quant à ça, il n'y a pas de marquage génétique, différence génétique entre les chimpanzés et nous?
Ah ben si. Par exemple, quand on... Tous ceux qu'on subit l'agriculture, ils ont beaucoup plus d'amylase, parce que la consommation d'amidon est bien plus importante. Les chimpanzés mangent pratiquement pas d'amidon. Enfin, très peu. Il y a beaucoup de feuilles, de fruits. Donc, on a des marques génétiques de notre nouveau régime alimentaire. Bon, les Inuits, ils n'ont pas cette amplification d'amylase. Mais des fruits, on n'est pas frugivore. Si on mange que des fruits, on va avoir des problèmes intestinaux, quoi.
Oui, parce qu'il y a aussi... Il y a aussi le fait que ce dont on parle là, c'est au moment de la sédentarisation.
Oui.
C'est-à-dire, comme vous l'avez montré, c'est globalement autour de 10 000 ans.
Oui.
Or, la dichotomie dont on parle en ce moment, c'est entre 7, 8, 9 millions d'années.
Ouais.
Et pendant tout ce temps-là, jusqu'à 10 000 ans, on a été nomades et on ne devient sédentaire qu'à 10 000 ans.
Oui. En Néandertal, il était intolérant au lactose. Avec l'analyse génétique, maintenant, comme on connaît les mutations, on sait qu'il était intolérant au lactose. Et on saura beaucoup plus sur son régime alimentaire au fur et à mesure que les... Probablement, ces amylases ne sont pas amplifiées, par exemple, puisqu'il n'a pas subi l'agriculture. Bon, on ne pourra pas remonter au-delà de Néandertal pour l'analyse de l'ADN, mais...
Pourquoi pas?
Je crois qu'à 1 million d'années, il n'y a plus d'ADN. Hein,
pourquoi?
Je ne sais pas, hein, ce n'est pas ma spécialité, mais c'est ce que disent les...
Que disait-on il y a 30 ans?
Il y a 30 ans, on a publié des articles dans Nature sur de l'ADN dans des feuilles
des dinosaures, ouais.
ou des coléoptères du secondaire,
ouais.
Qui n'ont pas été confirmés.
Faisons abstraction de ça.
Ouais.
Depuis qu'on a commencé à publier des choses raisonnables et fiables, on a commencé à parler en milliers d'années, on a continué en dizaines de milliers, on est en centaines de milliers d'années. Mmh. Bon, si on fait encore un facteur 10, on va arriver aux millions d'années, pourquoi pas? Il s'agit d'augmenter les techniques, hein, d'améliorer les techniques.
C'est possible. Pourquoi pas?
Je ne comprends pas pourquoi les biologistes sont toujours très pessimistes.
Là, j'ai répété bêtement ce que des spécialistes m'ont dit, mais effectivement, tout évolue et que peut-être dans 10 ans, on pourra analyser 1 million d'années. Tout à fait. Pourquoi pas? Non, mais tout à fait.
Bonjour. Dans votre exposé, vous dites que l'homme continue donc d'évoluer, d'être impacté par la sélection naturelle, on va dire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu maître de sa propre sélection, à travers ce que vous avez dit, au niveau de son alimentation et tout?
Maître de sa propre sélection?
Pas maître, mais que ces changements culturels qui vont influer sur la sélection génétique, par exemple.
C'est possible. C'est un domaine qui est très peu connu, mais bon, par exemple, le fait que la taille joue sur l'accès à l'université, qui est indirectement sur le statut économique, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas conscience. On a l'impression d'être, de diriger sa propre vie sur ses choix de partenaire, sur son nombre d'enfants. Peut-être. Mais quand on analyse les choix de partenaire, par exemple, en fonction, quand on regarde ce que les gens font et pas ce qu'ils disent, on a des différences énormes. Je ne sais pas dans quelle mesure on est vraiment maître de nos choix. Il y a plein de comportements qui ont des explications biologiques. Et cette espèce de conscience de soi, qui, entre parenthèses, a été sélectionnée par sélection naturelle, hein, puisque parmi les primates, pour des raisons particulières, c'est quelque chose qui est encore de pas bien compris. À quoi sert la conscience de soi ? Alors, est-ce que ça sert à diriger mieux sa propre reproduction ? Pourquoi pas ? Il y a encore trop peu d'études là-dessus. Mais c'est, à mon avis, c'est une question en suspens, qui n'est pas évidente. Attendez, il y a le micro qui arrive.
Oui, donc j'ai une question à propos du progrès de la médecine donc chez les humains. Par exemple, vous prenez autrefois, là, il y a 1000 ans ou quelque chose comme ça, donc une personne, par exemple, qui a une maladie génétique, ou peu importe, donc elle est censée génétiquement mourir à 10 ans. Donc, normalement, à 10 ans, on ne fait pas d'enfant. Donc du coup, il ne va pas retransmettre ses gènes de maladie à la descendance suivante,
non,
puisqu'il a 10 ans.
Oui.
Voilà. Donc, par contre, vu qu'il y a les progrès de la médecine actuellement, donc la personne de 10 ans, on va dire, je sais pas, elle va mourir à 30 ans. Mmh. Donc du coup, à 30 ans, elle va pouvoir faire des enfants. Mmh. Donc elle va transmettre ses gènes à la descendance suivante, enfin ses gènes malades à la descendance suivante. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce que le progrès de la médecine n'aurait pas tendance à entre guillemets, supprimer la sélection naturelle dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on aurait tendance à évoluer plus doucement à cause des progrès de la médecine ?
Alors, la médecine a effectivement un effet. La médecine, c'est un phénomène culturel. Et la médecine change effectivement les sélections. À mon avis, elle ne les supprime pas, elle les change. Par exemple, je prends l'exemple de l'accouchement. Tous les primates, il n'y en a aucun où les femelles ont des difficultés pour accoucher. Il n'y a que l'espèce humaine, où il faut une aide sociale, qui est maintenant médicale. Donc, probablement, il y a eu une aide pour aider au début les femmes qui avaient des enfants avec des grosses têtes, etc. Mais la pratique a continué. Et maintenant, sans aide sociale, qui s'appelle maintenant médecine, eh ben, la probabilité pour avoir un accouchement réussi est fortement diminuée. Donc là, la médecine a changé la sélection. Elle est allée dans une direction, cette sélection, où elle n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu ce phénomène culturel qu'on appelle maintenant médecine. Et qu'avant, ça s'appelait les sages-femmes et toute la culture qu'il y avait autour de ça. Donc en fait, c'est une pratique culturelle qui change la direction de la sélection. Mais qu'il n'y aurait pas de sélection différentielle associée à la médecine maintenant, ça ne me semble pas évident. Ben, je sais pas, quand on regarde en France, même en France, l'accès de la médecine est encore dépendant du statut socio-économique. Peut-être moins que dans d'autres pays, à cause de la sécurité sociale et plein d'autres trucs, mais c'est pas quelque chose qui est indépendant du statut socio-économique. Donc rien que pour ça, il y a quand même une sélection différentielle.
Moi, j'ai une question sur la relation entre la sédentarisation et l'évolution. Est-ce qu'il y a une cause à effet entre ces deux? Est-ce que c'est parce qu'on est sédentaire qu'on évolue ou on peut avoir des exemples de sédentarisation qui induit une régression?
La sédentarisation est probablement... elle est apparue quand il y avait des ressources qui étaient fixes. Alors, avec l'agriculture, il y a des cas de sédentarisation sans agriculture, mais il y en a très peu. Donc, en général, quand on est agriculteur, effectivement, de fait, on devient sédentaire. On ne peut pas être autrement. Et du moment qu'on est agriculteur, et ben, y a accumulation des ressources et tout le processus qui mène aux premières grandes sociétés hiérarchisées et structurées, d'accumulation différentielle. Donc effectivement, la sédentarisation est associée à un processus qui aboutit à une évolution importante. Ça augmente les densités, ça augmente les maladies, les résistances aux maladies, les contacts avec les animaux qu'on a aussi sédentarisés et domestiqués. Donc il y a tout un syndrome de trait sélectif associé à la sédentarisation.
Oui, parce que moi je viens du Cameroun et on a un groupe ethnique, les Pygmées, qui jusqu'à une date récente étaient encore des populations qui vivaient de la pêche, de l'agriculture, enfin de la cueillette, et qui vivaient dans la forêt. Et depuis un certain temps, un programme a voulu qu'on les sédentarise, qu'on les amène dans les villages organisés, les villes, et avec leur mobilité dans des zones regroupées, sont apparues des maladies, l'alcoolisme, et qui est en train de les décimer complètement. Donc, je comprends pas très bien, enfin, je vois pas la relation d'évolution dans ce sens. Est-ce que c'est une régression ou c'est une évolution?
Là, c'est un problème de contact entre des groupes très différents et un qui impose à l'autre une certaine alimentation, qui impose ses parasites, qui impose des tas de choses. Et forcément, je vais prendre l'exemple, par exemple, des Indiens d'Amérique. Ils sont arrivés par le détroit de Bering en petite bande et leur diversité des gènes de résistance aux parasites est extrêmement faible. Quand les Européens sont arrivés, il y a eu le quart de la population qui a été décimée sans le moindre contact, juste avec les parasites. Ça a été une boucherie. En plus, ils ont été massacrés autrement, mais les parasites ont eu une part extrêmement importante à la destruction massive de la population amérindienne. Et ça, c'est le résultat de contacts entre groupes qui avaient eu des évolutions différentes. Un qui avait beaucoup plus de parasites et les résistances associées, qui était en contact avec un groupe qui n'avait pas de résistance, et donc, pouf. Donc, non seulement ils étaient plus armés de manière technologique avec les armes à feu, mais en plus, ils avaient les parasites. Par contre, en Afrique, c'est le contraire. Le nombre de parasites est extrêmement élevé en Afrique, et les Africains ont des résistances assez fortes. Et ces parasites ont permis de limiter un petit peu l'effet de la colonisation. C'est clair que les parasites, au début, les Européens qui arrivaient, qui n'avaient pas de vaccin, ils étaient décimés, quoi. Alors effectivement, avec les vaccins, c'était une manière de remédier à ça et de avoir un avantage. Mais je pense que s'il y a plus d'Africains actuellement par rapport aux Amérindiens, les parasites, ils sont pour beaucoup, la différence entre les parasites.
Bonjour, les psychologues évolutionnistes expliquent la plupart des différences entre les hommes et les femmes comme une adaptation à l'environnement en fait, qui est remontrée en gros au paléolithique. Il s'agit toujours d'explications comme imaginer le chasseur-cueilleur de base derrière son mammouth qui court. À la vitesse où l'homme évolue, si je vous suis bien, est-ce que ça vous paraît pertinent?
Alors oui, il y a toute une école qui essaye d'expliquer nos comportements par l'environnement au paléolithique. Comme quoi, tous nos comportements s'expliqueraient dans l'environnement du paléolithique. Je pense que c'est une erreur, pour la simple raison qu'on voit des tas d'évolutions génétiques et culturelles qui apparaissent depuis le néolithique. La tolérance au lactose, c'est il y a 5000 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution depuis le paléolithique. Il y a une évolution. Alors maintenant, quand l'environnement change très vite, effectivement, ça crée un désaccord entre l'état actuel et puis l'environnement qui a sélectionné... Donc, quel est le temps de cette petite différence? Là, les gens ne sont pas tellement d'accord. Peut-être quelques milliers d'années. Ça ne peut pas être inférieur à quelques siècles, hein, parce que l'évolution génétique, quand même, il lui faut du temps. Mais non, nos comportements peuvent très bien s'expliquer, potentiellement, par un environnement qui n'était plus celui du paléolithique. et qui était plus celui du néolithique, qui est beaucoup plus proche de ce qu'il y a maintenant. Voilà. Mais c'est sûr que, par exemple, depuis un siècle ou depuis quelques décennies, ça a changé considérablement. Et là, il n'y a pas eu d'évolution génétique, c'est clair. Pour les différences hommes-femmes, sur quelles différences vous...
Ils prétendent expliquer la plupart des comportements, pas seulement les différences hommes-femmes, mais c'est des trucs du genre les capacités verbales chez les femmes parce qu'elles sont autour du foyer pour maintenir la cohésion sociale, et les capacités visio-spatiales plus importantes chez les hommes parce qu'ils étaient à la chasse et ce genre de choses.
Ces différences sont bien établies. Par contre, les explications, les placer au niveau du paléolithique, à mon avis, là, c'est un peu... c'est pas correct scientifiquement.
Les carences en fer sont très répandues parmi les populations, puisqu'on en compte environ 2 milliards, je crois. Est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là au niveau de l'homme ? Parce que je pense qu'au niveau des plantes, certaines plantes sont adaptées à ces carences. Est-ce que c'est le cas au niveau des hommes ? Est-ce que ce problème est très important et...
Alors, carence en fer recouvre deux phénomènes très différents. Il y a le fait d'avoir une alimentation insuffisante, donc on n'a pas assez de fer, donc effectivement on est anémié. Et le nombre de globules rouges diminue par unité de volume. Il y a aussi une deuxième chose qui est que le fer disponible est capté par des protéines spécialisées et donc il n'est plus disponible. Donc ça c'est le fer plasmatique qui est diminué. Ça par contre, et c'est un phénomène très différent, c'est une adaptation aux parasites. Quand on est parasité, on a une baisse du fer plasmatique. Pourquoi ? Parce que le fer est un enjeu très important pour le développement donc, d'un parasite. Il va chercher du fer. Et donc, une des adaptations pour résister à un parasite qui vient d'envahir notre organisme, c'est de retirer le fer et de le rendre indisponible. Et ça, c'est une des choses que la médecine, à certains endroits, a eu du mal à comprendre. Quand on est immunodéprimé, on peut être immunodéprimé pour des tas de raisons, soit parce qu'on est vieux, soit parce qu'on est enceinte, le fer plasmatique est diminué. Et par exemple, il y a énormément d'articles de médecins qui vont en Afrique, qui observent des populations avec un fer plasmatique en concentration extrêmement faible. Et pouf, qu'il est supplément en fer. Alors il faut un groupe contrôle, et à chaque fois, au bout d'un certain temps, ceux qui sont supplémentés en fer, les amybioses qui augmentent, le paludisme qui augmente, tous les parasites augmentent. Pourquoi ? Parce que le niveau de fer plasmatique était ajusté à un certain contact avec les parasites, etc., et que c'était une adaptation qui était mal comprise. Donc il y a une anémie due à un problème d'alimentation, parce qu'il y a plein de sous-nutrition partout. Mais en plus, et indépendamment, il y a la baisse du fer plasmatique qui est une réponse adaptative à certaines situations particulières et qui n'est pas reconnue comme une adaptation par une partie de la médecine actuelle.
Il n'y a pas aussi des adaptations. Certaines personnes ont trop de fer.
Hein. Oui, alors j'ai oublié le nom de cette...
des gens personnes qui... du Nord...
Comment ?
Des personnes du nord de la France, les Celtes par là-bas.
Ah, je ne connais pas le cas des Celtes en fonction du fer. Ils ont plus de fer, les Celtes ?
Ils ont quelquefois trop de fer. Il y a une maladie qui est liée à cette, un excès de fer.
Un excès de fer.
Qui est peut-être lié un peu à ce problème-là.
Ouais. Il y en a qui pensent que les saignées qu'il y avait auparavant étaient aussi une des manières d'éliminer du fer, et que c'était donc adaptatif dans ce contexte-là, quand on n'avait pas d'autres moyens de le faire.
Non, on a manqué de faire des saignées à cause de ça.
Je voulais savoir si différences de climat... la préhistoire, enfin, civilisation, etc. Bon, ça a pu. Si on a pu mesurer quelque chose concernant l'évolution humaine à la suite de ces glaciations.
Si l'évolution du climat a entraîné des évolutions chez l'homme ?
Oui. C'est trop général comme vu.
Ça serait étonnant que ça ne le fasse pas. Hein. Je veux dire, l'évolution de l'environnement, température, etc., ça affecte plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple sur l'évolution du climat ?
Des continents qui n'ont pas connu des glaciations au même titre, enfin, aussi importantes que... Je suppose que l'Afrique a été moins affectée que l'Europe ou que l'Asie.
Il y a eu des changements climatiques très forts.
Oui, en Afrique,
il n'y avait pas de glaciers, mais il y avait des refuges. La végétation a énormément évolué, hein, d'après ce que nous disait palynologue.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas le même type de végétation et d'environnement, si vous voulez, qui s'est fait là-bas. Là-bas, ça restait quand même essentiellement chaud, alors qu'en Europe, ça devenait très froid. Ou enfin, disons, tempéré.
Ouais, bon, les Inuits, par exemple, ils sont adaptés à un climat extrêmement rigoureux, quoi.
Oui, non, mais d'accord.
Donc, génétiquement et culturellement. Hein. Oui. Les glandes sudoripares sont concentrées sur la face. Ils ont des membres légèrement plus courts. Leur face est plus plate. Enfin, il y a plein de choses. Hein, et culturellement, évidemment. Non, ça, je pense qu'il y a plein d'exemples d'influence du climat sur des traits génétiques ou culturels. Bon, voilà. Vous êtes les spécialistes, là, qui vont comprendre.
Ah oui, bien sûr. La première grande évidence, c'est l'apparition du genre homo. On est apparu, c'est ce que notre ami Coppens appelle homo event, homo H, entre parenthèses, homo, à 2,5 millions. À 2,5 millions d'années, en Afrique, vous avez une altération climatique vers plus froid, plus sec. Et c'est justement à ce moment-là qu'on voit apparaître un hominidé qu'on peut peut-être qualifier d'homo, encore que les spécialistes discutent. Enfin, bon, c'est un hominidé relativement différent, qui devient sûrement plus mobile. Et tout au long de notre histoire, c'est ponctué par des événements climatiques. Et je pense que ça, on ne sait pas bien... Mais je pense que la dichotomie entre les chimpanzés et nous, c'est aussi un événement climatique. C'est une adaptation, parce que la population ancestrale aux chimpanzés et à nous, elle était dans la forêt tropicale humide. Et nous, on s'est adapté à quelque chose qui était complètement différent. Ces gens-là, nos ancêtres-là, ils étaient dans une forêt... où finalement, ils étaient, du point de vue de la nourriture, c'était une bonne saison toute l'année, quoi. Et nous, nous sommes des singes qui sont adaptés à une bonne et une mauvaise saison sur le plan alimentaire. On n'est pas toujours en bonne saison. Et donc, c'est lié à des événements climatiques. Et toute notre histoire est ponctuée d'événements climatiques, bien évidemment. Alors, les dernières glaciations, bien sûr, a fortiori, quoi.
Il y a quelques mois, j'ai vu un documentaire qui remettait en question le fait qu'on descende des Homo sapiens directement. En fait, c'est par rapport à la disparition de l'homme de Néandertal. Il montrait que l'Homo sapiens n'aurait pas poussé l'homme de Néandertal à son extinction, mais plutôt il aurait assimilé, et qu'en fait on serait le produit du mélange des deux. Donc ils illustraient ça à travers des découvertes. Apparemment, ils avaient déterré un corps d'un enfant qui regroupait des particularités et de l'homme de Néandertal et de l'homme de l'Homo sapiens. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, d'après les données de génétique, qui ne sont pas de moi, hein, qui proviennent d'Allemagne, où il y a aussi un peu à Lyon, donc on séquence maintenant du Néandertal. Bon, et là, il n'y a pas de problème. Néandertal, on est un cousin de Néandertal. Néandertal est un cousin. Et les lignées sont séparées, aussi bien pour la lignée mitochondriale que pour la lignée nucléaire. Donc ça, c'est vraiment deux espèces bien séparées. Et il n'y a aucune trace, à ma connaissance, de mélange ou d'hybridation ou quoi que ce soit. Là, les données sont extrêmement claires. Mais les données comme ça, il y a quelques années, il y avait encore la théorie de l'origine multiple d'Homo sapiens. Toujours pareil, à partir de crânes, d'analyse de... Bon, on est complètement revenu là-dessus, quoi. Il y a une seule origine. Enfin, pas tout le monde, d'ailleurs. Mais là, je vois que ça revient pour Néandertal. En tout cas, les données génétiques sont extrêmement claires. Il n'y a pas eu de mélange. C'était un fantasme qu'il y avait, de croisement dans un sens ou dans l'autre. Apparemment, il n'y a aucune trace génétique actuelle d'hybridation ou de reste d'hybridation entre Homo sapiens et Néandertal. Dernière question.
Venez, monsieur. C'est une question d'analphabète, mais je voudrais savoir si ça fait réfléchir les mathématiciens, cette histoire d'évolution. S'il y a eu des formules, enfin, des systématisations mathématiques concernant ce phénomène. Enfin, oui, au moins des...
Il y a une formalisation, ça s'appelle la génétique des populations, effectivement, qui est une formalisation de comment les gènes, avec le système d'hérédité que l'on connaît, évolue dans les populations en fonction de la mutation, de la migration, de la sélection, de la recombinaison. Donc tous les processus biologiques qui font évoluer les gènes ont été formalisés pour faire des prédictions sur l'évolution en population naturelle, effectivement, en population structurée. Et c'est un champ disciplinaire extrêmement développé actuellement. Merci.
Si vous voulez prolonger donc, cette étude, je vous renvoie donc, au livre de M. Michel Raymond, Cro-Magnon toi-même. Voilà, vous trouverez des exemples illustrés ce soir, ainsi que d'autres exemples. Bonne fin de soirée.